From the conference center.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.
Thomas S. Monson,
président de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, au début de cette première session de la 170e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours, nous souhaitons une particulière bienvenue aux membres et amis de l'Église qui suivent partout dans le monde le déroulement de cette conférence. Nous saluons la présence des autorités générales et des présidents généraux des auxiliaires qui assistent à cette conférence. Nous remercions les nombreuses chaînes de télévision et stations de radio, ainsi que les réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mark Wilberg et de Ed Thompson, avec Clay Christensen et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Tout au sein, moi, démon » et va maintenant nous interpréter « Sauveur d'Israël ». Shane M. Bowen, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Oh,
Notre Père céleste, au commencement de cette conférence, nous inclinons la tête devant toi et t'exprimons notre amour, notre appréciation. Père, nous sommes reconnaissants d'être venus à cette dispensation, venus grâce au prophète Joseph et pour ton Fils Jésus-Christ, pour le rétablissement et la puissance de la prêtrise. Nous sommes reconnaissants, Père céleste, pour les 12 apôtres, la première présidence, pour le président Monson, à qui la puissance et l'autorité a été donnée d'exercer ses clés envers nous. Nous te prions de bénir tous les membres de l'Église dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants pour les temples sur toute la terre, où nous pouvons nous rendre pour être scellés pour le temps et pour l'éternité, pour nous préparer à retourner en ta présence. Père, nous prions de pouvoir écouter aujourd'hui dans toutes les sessions afin de comprendre par la puissance du Saint-Esprit et de pouvoir ensuite appliquer ce que nous demandons de faire en suivant ces incitations au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. It will now be my pleasure to address you.
Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur chantera « Omé Maïsoul Kaminwedi ». Après ce chant, Elder Elton Perry du Collège des 12 apôtres nous adressera la parole. Ensuite, nous entendrons Sylvia H. Elred, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Puis Neil L. Anderson de la présidence des 70 s'adressera à nous. Mes chers frères et sœurs, les 6 mois écoulés depuis notre dernière rencontre sont passés en un éclair. Il s'est produit beaucoup de choses et l'œuvre du Seigneur a avancé sans interruption. J'ai eu l'honneur, en compagnie de mes conseillers et d'autres autorités générales, de consacrer 3 nouveaux temples à Curitiba, Brésil, Panama City, Panama, et à Twin Falls, en Idaho, ce qui nous porte à 128 le nombre de temples en service de par le monde. La veille au soir de chaque consécration, il y a eu de magnifiques spectacles culturels. À Curitiba, Brésil, 4330 membres du secteur du temple, accompagnés d'un chœur de 1700 choristes, ont présenté un spectacle de chant, de danse et de vidéo très inspirant. L'immense stade de football où se déroulait le spectacle était plein de spectateurs. Il y avait du vent et la pluie menaçait. J'ai prié notre Père Céleste de faire preuve de miséricorde envers les personnes qui s'étaient préparées avec tant de diligence pour nous donner le spectacle et dont les costumes et la préparation seraient gâchés par une forte pluie ou un grand vent. Il a exaucé cette prière. Et ce n'est qu'après la fin du spectacle et plus tard dans la nuit qu'il a beaucoup plu. L'histoire de l'Église au Brésil a été évoquée par des chants et de la danse. Une scène particulièrement émouvante représentait James E. Faust et William Grant Bangerter qui ont fait une mission à Curitiba en 1938. Quand leur photo a été projetée sur des écrans géants, une immense clameur s'est élevée de l'assistance. Du début à la fin, cela a été un spectacle extraordinaire. À Panama City, au Panama, la veille de la consécration du temple, nous avons vu environ 900 de nos jeunes venus de tout le Panama. Ils portaient des costumes folkloriques colorés pour danser et donner des messages sur la famille, l'amitié et la foi. Nous avons appris qu'ils se préparaient depuis 1 an. Ils venaient d'endroits aussi éloignés que les îles San Blas et la région de Shangri-La, dans le nord-est du Panama. Pour venir à la capitale, les jeunes de San Blas ont fait 3 jours d'un voyage éprouvant par terre et par mer. Le spectacle était magnifique et inspirant. Pour préparer la consécration de temple la plus récente à Twin Falls, Idaho, les membres locaux de l'église ont construit une scène immense à Filer et ont recouvert le stade de terre de gazon et d'autres décors, notamment une grande cascade pour représenter la cascade de Shoshone, lieu bien connu, à 3 km du nouveau temple. Le soir du spectacle, 2200 jeunes gens et jeunes filles sont entrés sur la piste en agitant des rubans bleus et blancs, ce qui donnait à la scène l'aspect des flots d'une grande rivière. Le spectacle, intitulé « Eau vive », d'après le chapitre 4, versets 10 et 14 de Jean, a rassemblé les jeunes de 14 pieux du secteur du nouveau temple. Ils ont évoqué, par le chant et la danse, à la fois leur besoin de l'eau vive du Sauveur pour leur vie spirituelle et leur besoin de l'eau des rivières de leur région pour leur santé physique. Les personnes qui ont pu assister à ce spectacle ont été élevées et édifiées. Je suis tout à fait favorable à ce genre de spectacle. Ils permettent à nos jeunes de participer à quelque chose de véritablement inoubliable. Les amis qu'ils s'y font et les souvenirs qu'ils en ont seront éternels. Le mois prochain, le temple de Mexico sera consacré, reconsacré, après une rénovation importante. Dans les mois à venir, la construction d'autres temples s'achèvera et il y aura des visites guidées et des consécrations. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous annoncer 5 nouveaux temples qui, dans les années et les mois à venir, seront construits dans les endroits suivants. Calgary, Alberta, Canada. Cordoba, Argentine. La ville du Grand Kansas. Philadelphie, Pennsylvanie. Et Rome, Italie. Mes frères et sœurs, notre force missionnaire qui sert dans le monde entier continue de chercher les personnes en quête des vérités qui se trouvent dans l'Évangile de Jésus-Christ. L'Église grandit avec constance, comme cela est le cas depuis son organisation il y a 178 ans. J'ai eu l'honneur, ces 6 derniers mois, de rencontrer des dirigeants et des représentants de différents pays et gouvernements. Ceux que j'ai rencontrés sont bien disposés envers l'Église et ses membres, et ils sont coopératifs et arrangeants. Il reste toutefois des régions du monde où notre influence est limitée et où il ne nous est pas permis de prêcher librement l'Évangile. Comme l'a fait le président Kimball il y a un peu plus de 32 ans, je vous exhorte à prier pour que ces régions s'ouvrent, pour que nous y apportions la joie de l'Évangile. Quand nous avons prié à l'époque, suite aux supplications du président Kimball, nous avons vu des miracles se produire. Quand des pays fermés à l'Église se sont ouverts un à un, cela se produira à nouveau si nous prions avec foi. Maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour être instruits et inspirés. Certains d'entre vous sont nouveaux dans l'Église. Nous vous souhaitons la bienvenue. Certains d'entre vous affrontent des problèmes, des difficultés, des déceptions, subissent des deuils. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Vous entendrez de nombreux messages durant les 2 prochains jours. Je peux vous assurer que les hommes et les femmes qui vont vous parler ont prié à propos de ce qu'ils doivent dire. Ils ont été inspirés, tandis qu'ils recherchaient l'aide et les directives divines. Notre Père Céleste se soucie de chacun de nous et de nos besoins. Puissions-nous être remplis de son Esprit en suivant cette 178e conférence générale d'octobre de l'Église. C'est là ma prière sincère au nom de Jésus-Christ. Amen.
Those of us who have been around a while,
les gens qui ont vécu un certain temps, et c'est notre cas, frère Wesley et moi, ont constaté certains schémas dans l'épreuve de la vie. Il y a des cycles de bons et de mauvais moments, des hauts et des bas, des périodes de joie et d'autres de tristesse, ainsi que des moments d'abondance et de pénurie. Quand notre vie prend une direction inattendue et indésirable, nous sommes parfois tendus et anxieux. L'une des difficultés de la condition mortelle est d'arriver à ne pas laisser la tension et les épreuves de la vie nous vaincre, à persévérer durant les différentes périodes de la vie tout en restant positif et même optimiste. Quand nous avons des difficultés et des épreuves, nous devrions peut-être avoir ces paroles d'espoir de Robert Browning gravées dans l'esprit. Le meilleur est encore à venir. Nous ne pouvons pas prévoir toutes les difficultés et toutes les tempêtes de la vie, même celles qui sont imminentes. Mais étant des personnes de foi et d'espérance, nous savons sans l'ombre d'un doute que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai et que le meilleur est encore à venir. Je me souviens d'une période de ma vie pendant laquelle j'ai subi une tension inhabituelle. J'avais des difficultés au travail et au même moment, on a diagnostiqué chez ma femme une maladie potentiellement mortelle. C'était l'un de ces moments où j'ai eu l'impression que l'adversité se déchaînait contre ma famille et moi. Les jours où nous n'arrivions plus à faire face à la tension et à l'anxiété due à notre vie tumultueuse, ma femme et moi avions trouvé un moyen de les soulager. Nous partions en voiture à seulement quelques kilomètres de chez nous pour échapper un moment à nos difficultés, pour parler et nous réconforter émotionnellement l'un l'autre. Nous allions à Walden Pond. C'est un beau petit lac au milieu d'une forêt. Quand ma femme se sentait suffisamment bien, nous faisions le tour du lac à pied. Quand elle ne se sentait pas la force de marcher, nous restions dans la voiture à parler. Walden Pond était notre lieu de repos, de réflexion et de guérison. C'est peut-être en partie en raison de son histoire, son rapport avec les efforts d'Henry David Thoreau pour se séparer du monde pendant quelques années, que cet endroit nous a apporté tant d'espoir, de simplicité, et nous permettait de nous échapper de notre vie trop compliquée. C'est en mars 1845 que Thoreau a décidé de partir sur les bords de Walden Pond. Il y a passé 2 ans à essayer de comprendre le sens de la vie. Il s'est installé sur un terrain appartenant à son ami Ralph Waldo Emerson. Il a acheté une vieille cabane à ouvriers du chemin de fer, l'a démontée, a utilisé ce qu'il en a récupéré, a coupé du bois dans la forêt pour construire sa propre cabane. Il a tenu méticuleusement ses comptes. Il a conclu que pour sa maison et sa liberté, il avait seulement dépensé $28.12. Il a fait un potager où il a semé des petits pois, des pommes de terre, du maïs, des haricots et des navets pour se nourrir simplement. Il a planté 1 hectare de haricots avec l'intention de couvrir ses besoins avec l'argent qu'il en tirerait. Cela lui a rapporté bien peu, $8.71. Thoreau a vécu sans tenir compte du temps qui passe. Il n'avait ni horloge ni calendrier dans sa cabane. Il a passé son temps à écrire et à étudier les beautés et les merveilles de la nature qui l'entouraient, notamment les plantes, oiseaux et autres animaux de la région. Il n'a pas vécu en ermite. Il allait presque tous les jours à la ville de Concorde et il invitait des gens à venir chez lui pour des conversations instructives. Au bout des 2 ans, il a quitté sa cabane sans regret. Il considérait avoir passé le temps nécessaire pour accomplir son objectif, faire l'expérience des bienfaits spirituels d'un mode de vie simplifié. Il avait aussi le sentiment que d'autres expériences de la vie l'attendaient. Le moment était venu de partir et d'explorer d'autres possibilités. De son expérience à Walden Pond, Thoreau a déterminé qu'il n'avait que 4 choses dont l'homme a réellement besoin. La nourriture, des vêtements, un abri et du combustible. Je vais parler de chacun des 4 besoins de base de la vie, ainsi que des bienfaits spirituels d'un mode de vie simplifié. Le premier besoin est la nourriture. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons la connaissance sacrée, obtenue par révélation de la vérité, de la relation entre le corps et l'esprit. Doctrine et Alliance 88.15 déclare « L'esprit et le corps sont l'âme de l'homme ». Pour nous bénir à la fois physiquement et spirituellement, le Seigneur nous a aussi révélé une loi de santé, nous disant quels aliments et substances sont bons pour le corps et lesquels ne sont pas bons. Ces instructions s'accompagnent de la promesse qui se trouve dans la section 89 des Doctrines et Alliances. Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles, marchant dans l'obéissance aux commandements, recevront la santé en leur nombril et de la moelle pour leurs os. Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, oui, les trésors cachés. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne faibliront pas. Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que l'ange destructeur passera à côté d'eux, comme pour les enfants d'Israël, et ne les frappera pas. Il n'y a pas de meilleur conseil concernant la parole de sagesse que ce que l'on trouve dans le livret « Jeune, soyez fort ». Il dit, « Le Seigneur nous a commandé de prendre soin de notre corps. Pour ce faire, observez la parole de sagesse qui se trouve dans Doctrine et Alliance 89. Mangez des aliments nourrissants, faites régulièrement de l'exercice et dormez suffisamment. Quand vous faites cela, vous restez à l'abri des dépendances nocives et vous êtes maître de votre vie. Vous obtenez la bénédiction d'avoir un corps sain, un esprit éveillé et l'inspiration du Saint-Esprit. les produits chimiques et les pratiques dangereuses utilisées pour produire une sensation d'euphorie peuvent détruire votre bien-être physique, mental et spirituel. Cela comprend la drogue, l'abus de médicaments sur ordonnance ou en vente libre et les produits chimiques ménagers. Nous ne voulons pas nuire à notre corps mortel, car c'est un don de Dieu. Et le grand plan du bonheur de notre Père Céleste prévoit de réunir notre corps immortel et notre esprit. Un autre besoin de base est l'habillement. Une vie simplifiée qui apporte des bénédictions spirituelles requiert de porter des vêtements simples et pudiques. Notre vêtement et notre tenue transmettent aux gens un message sur notre personne et influencent aussi notre manière d'agir. Quand nous sommes habillés pudiquement, nous invitons aussi l'Esprit du Seigneur à être pour nous un bouclier et une protection. Les tendances du monde en matière de mode féminine poussent toujours aux extrêmes. On dirait, à voir leur dernière mode, que beaucoup de stylistes veulent faire deux ou trois robes avec la quantité de tissu nécessaire pour en faire une. En règle générale, ils enlèvent trop de tissu en haut et en bas des vêtements féminins, et occasionnellement, ils lésinent aussi dans le milieu. Les modes masculines adoptent aussi des styles extrêmes. À mon époque, on les aurait appelés débraillés et inconvenants. Je crois que des vêtements très négligés sont presque toujours suivis de manière très négligée. Beaucoup d'entre vous essayent d'avoir trop de vêtements et une tenue qui attire ce que le Seigneur considérerait comme le mauvais genre d'attention. Dans l'histoire de l'arbre de vie du livre de Mormon, c'était les gens dont la façon de s'habiller est extrêmement raffinée qui se moquaient de ceux qui prenaient du fruit de l'arbre. Cela donne à réfléchir de voir que les moqueurs, soucieux de la mode, dans le grand et spacieux édifice, ont mis beaucoup de gens dans l'embarras, et que ceux qui avaient honte tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Nathan Eldon Tanner nous a fait un jour la mise en garde suivante. La pudeur dans l'habillement est une qualité de l'esprit et du cœur, venant du respect de soi-même, de son prochain et du Créateur de nous tous. La pudeur est le reflet d'une attitude d'humilité, de décence et de convenance. En suivant ces principes et guidés par le Saint-Esprit, que les parents, les instructeurs et les jeunes parlent des particularités de l'habillement, de la tenue et de l'aspect personnel, et qu'avec leur libre arbitre, ils acceptent la responsabilité et choisissent le bien. Voyons maintenant la troisième nécessité de Thoreau, l'abri. Les journaux sont remplis d'articles sur la crise actuelle du logement. Il nous a été recommandé à presque toutes les conférences générales de l'Église, dont je me souviens, de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Ce sont nos revenus qui doivent déterminer le genre de logement que nous pouvons nous permettre, pas la grande maison du voisin d'en face. Edward G. Grant a dit un jour, « Aussi loin que je me souvienne, depuis l'époque de Brigham Young à maintenant, j'ai entendu des hommes exhorter les gens depuis cette chaire à ne pas faire de dettes. Et je crois que la grande majorité de tous les problèmes d'aujourd'hui viennent du manque de respect de cette recommandation. L'un des meilleurs moyens de simplifier notre vie est de suivre les recommandations qui nous ont si souvent été faites. Vivre selon nos moyens, ne pas faire de dettes, économiser pour les temps difficiles. Nous devons appliquer et améliorer nos habitudes d'économie, de travail et de frugalité. Les membres d'une famille bien gérée ne payent pas d'intérêt, ils les touchent. La dernière nécessité de Thoreau était le combustible. Nous entendons beaucoup parler de combustible et d'énergie, de son coût élevé, du peu de réserves, de notre dépendance dangereuse et imprévisible des fournisseurs et du besoin de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Je laisse les dirigeants des gouvernements et de l'industrie parler de ces questions compliquées. Le combustible dont je veux parler est le combustible spirituel. Le Seigneur nous a donné un plan magnifique pour retourner auprès de lui. Mais pour terminer notre voyage dans la condition mortelle, il faut du combustible spirituel. Nous ferions bien de suivre l'exemple des cinq vierges sages qui avaient suffisamment d'huile en réserve pour accompagner l'époux à son arrivée. Que faut-il pour maintenir une réserve suffisante de combustible spirituel? Nous devons acquérir la connaissance du plan éternel de Dieu et du rôle que nous y jouions, puis en menant une vie juste, en soumettant notre volonté à celle du Seigneur, nous recevrons les bénédictions promises. William R. Bradford enseignait depuis cette chaire. La justice est d'une grande simplicité. Pour chaque décision que nous devons prendre, il existe une bonne et une mauvaise façon de procéder. Si nous choisissons la bonne voie, nous sommes soutenus dans nos actions par les principes de la justice qui sont porteurs du pouvoir des cieux. Si nous choisissons la mauvaise voie et si nous agissons en conséquence, nous n'avons pas cette promesse et ce pouvoir céleste et nous sommes seuls et destinés à échouer. Juste avant sa mort, on a demandé à Thoreau s'il avait fait la paix avec Dieu. Il a répondu, « Je ne savais pas que nous étions querellés. » Dans notre recherche d'aide face aux tensions de la vie, puissions-nous chercher sincèrement des manières de simplifier notre vie. Puissions-nous suivre les recommandations inspirées que le Seigneur nous a données dans le grand plan du bonheur. Puissions-nous être dignes de la compagnie du Saint-Esprit et suivre les directives de l'Esprit durant notre voyage dans la condition mortelle. Puissions-nous nous préparer à atteindre l'objectif ultime de l'épreuve terrestre, retourner vivre avec notre Père céleste. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le Seigneur a enseigné que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême est donc essentiel à notre salut. Avant de monter au ciel, le Sauveur ressuscité a demandé à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au moment du rétablissement, il a réitéré sa demande. C'est pourquoi vous êtes appelés à inviter ce peuple au repentir. L'Église du Seigneur a la responsabilité de prêcher l'Évangile dans le monde. Le fondement de l'œuvre missionnaire et le devoir de nos missionnaires est d'inviter les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Je vais parler et témoigner de l'énorme influence et des grandes bénédictions de l'œuvre missionnaire dans la vie des convertis, des générations futures et des missionnaires, et de la manière dont nous pouvons participer à l'œuvre missionnaire. Quand j'avais 14 ans, par un beau matin d'août, frères Prina et Perkins ont frappé à notre porte. Ils ont commencé à enseigner à notre famille la vraie nature de Dieu. Au cours des visites qui ont suivi, ils nous ont appris à prier. Ils nous ont aussi enseigné le rétablissement et le plan du salut. Après la troisième ou la quatrième visite, la plupart des membres de notre famille ont arrêté d'écouter les missionnaires, sauf ma sœur de 17 ans, Dina, et moi. Nous ressentions toutes les deux le témoignage du Saint-Esprit et nous avions reçu la confirmation spirituelle que le message était vrai. Nous avons acheté un exemplaire du Livre de Mormon et nous avons commencé à le lire. Tous les jours après l'école, nous rentrions à la maison en courant pour être la première à le prendre. Pendant que la première arrivait lisait, l'autre attendait impatiemment l'heure du repas, mangeait rapidement, puis prenait son tour de lecture jusqu'au moment de dormir. Tel était notre enthousiasme. Nous avons commencé à aller à l'église et nous avons bientôt demandé à nous faire baptiser. Notre père a tout de suite donné son autorisation. Mais notre mère était hésitante, et il a fallu un mois de plus pour la persuader de signer l'autorisation. Le jour de notre baptême, elle est venue avec le reste de nos frères et sœurs à l'église pour la première fois. Elle a ressenti l'Esprit. Après avoir entendu notre témoignage, elle a demandé aux missionnaires de recommencer à l'instruire. Quelques semaines plus tard, elle s'est fait baptiser, ainsi que nos jeunes frères et sœurs. Ma vie a changé à jamais. Et l'Évangile de Jésus-Christ est devenu la grande force de ma vie. Les mots ne peuvent exprimer ma profonde gratitude envers le Seigneur et envers les missionnaires qu'il a envoyés chez nous. Le Seigneur m'a donné la bénédiction de connaître l'Évangile rétabli et j'ai éprouvé le désir irrépressible de faire part de cette connaissance aux gens. Je voulais être missionnaire. Quelques mois plus tard, ma sœur Dina et moi avons été appelés comme missionnaires locales à San Salvador. Cet appel nous a donné l'occasion d'aller de porte en porte, donner la bonne nouvelle de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et d'amener beaucoup de gens dans les eaux du baptême. Au moment voulu, nous avons toutes les deux fait une mission à plein temps dans la mission d'Amérique centrale. Ma mission a eu une grande influence sur ma vie. J'ai appris à me reposer davantage sur le Seigneur, à chercher à être guidé par l'Esprit et à ressentir un amour immense pour les enfants de Dieu. Ma connaissance des Écritures et ma compréhension de la doctrine ont grandi, de même que mon désir d'être obéissante et de respecter scrupuleusement les commandements. Mon témoignage du Sauveur et de son expiation infinie a été renforcé. Mes expériences missionnaires sont devenues une partie de moi-même. L'œuvre missionnaire est devenue ma passion. C'est ce qui a le plus d'influence sur ma vie et sur celle de ma famille. Jeffrey R. Holland a décrit l'influence de sa mission sur sa vie de la manière suivante. Ma mission est tout pour moi, 47 ans après mon retour. S'il y a eu un jour dans ces 47 années où je n'ai pas pensé à ma mission, je ne sais pas quel jour cela a pu bien être. Il y a 2 ans, mon petit-fils, Christian, a 8 ans et il préparait son service de baptême avec beaucoup d'impatience. Il a demandé à sa mère si je pourrais faire un discours et raconter l'histoire de ma conversion. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait que je le fasse, il m'a répondu « Grand-mère, c'est très important. Est-ce que tu te rends compte que si tu n'avais pas accepté l'Évangile, je ne me préparerais pas à me faire baptiser. Je ne saurais même pas qui je suis. » Je ne sais pas si les missionnaires se rendent compte de la portée de leur travail. Dans ma famille, les bénédictions de l'Évangile ont touché pour l'instant 4 générations. Le président Hinckley n'a-t-il pas dit que lorsque nous sauvons une jeune fille, nous sauvons des générations? Je me suis mariée au temple et j'ai 8 enfants. Ils sont tous membres fidèles de l'Église dotée au temple. 6 d'entre eux sont maintenant mariés et ont des enfants. Aujourd'hui, nous sommes 34. Et ce n'est pas tout. Mon mari et moi avons fait une mission, ainsi que nos 2 fils et 3 de nos filles. Collectivement, nous avons aidé des centaines de gens à accepter l'Évangile dans de nombreux pays. Certains de ces convertis et leurs enfants ont aussi fait une mission. C'est l'œuvre missionnaire qui donne vie à l'Église. Il n'y a pas d'œuvre plus belle ni plus importante. C'est une bénédiction pour tous les gens qui y participent. Elle continuera d'être une bénédiction pour les générations futures. Il se peut que vous vous demandiez, comment puis-je aider à l'œuvre missionnaire? Comment puis-je y participer? Quand on s'y embarque, il y a 2 vérités fondamentales à garder à l'esprit. Premièrement, comprendre clairement que Dieu aime tous ses enfants et désire leur salut. Dans Doctrine et Alliance 18-13, nous lisons « Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. » Deuxièmement, notre message du Christ et de son évangile rétabli est le plus grand cadeau que vous puissiez faire. Comme cela est indiqué dans « Prêcher mon évangile », l'œuvre missionnaire comporte 4 aspects. Trouver des personnes à instruire, enseigner et baptiser, intégrer et instruire les nouveaux membres, et intégrer et instruire les membres non pratiquants. Tous les membres de l'Église, enfants, jeunes et adultes, peuvent participer à n'importe laquelle de ces actions. Commencez par être un bon voisin et un bon ami. Montrez l'exemple de la droiture et de la gentillesse. Que votre sourire rayonne d'amour, de paix et de bonheur. Menez une vie centrée sur l'Évangile. Puis, soyez plus spécifique dans vos efforts missionnaires. Je vais vous donner quelques idées. Vous en trouverez peut-être 2 ou 3 qui vous conviennent. Si vous avez des enfants à la maison, aidez-les à se préparer à faire une mission. Préparez-vous à faire une mission. Invitez des membres de votre famille et des amis à écouter les missionnaires ou à assister aux réunions et aux activités de notre Église. Accompagnez les missionnaires chez les amis de l'Église ou invitez les missionnaires à instruire des non-membres chez vous. Invitez des gens à une soirée familiale chez vous. inviter des gens à venir dans un centre d'histoire familiale ou aider-les à faire des recherches d'histoire familiale. Donner des coordonnées aux missionnaires. Les membres peuvent être la plus grande et la meilleure source de coordonnées. Parlez de vos croyances et rendez votre témoignage à vos amis et aux membres de votre famille non-membre. Cherchez des occasions d'aller vers les gens. Liez-vous d'amitié avec des amis de l'Église et des nouveaux convertis. Faites tout ce que vous pouvez pour trouver des gens qui cherchent la vérité. Si des amis, des membres de votre famille ou des amis sont en mission, écrivez-leur pour leur dire que vous les aimez, pour les encourager et prier pour eux. Les fruits de vos efforts vous procureront de la joie. Un plus grand enthousiasme pour l'œuvre missionnaire fortifiera toute votre paroisse sous branche. Toute l'Église ressentira les effets de votre travail. Quand notre fille, Margie, était à l'école primaire, elle a invité sa meilleure amie à aller à la primaire avec elle. Toutes les deux ont participé à la réunion de Sainte-Seine des enfants. Le père de son amie avait rejeté les missionnaires auparavant. Mais quand Margie est arrivée chez lui avec une poignée de brochures de l'Église, il a écouté attentivement ses explications simples et son témoignage de Joseph Smith et de la première vision. Il a non seulement permis à sa fille de continuer d'aller à la primaire, mais il lui a donné l'autorisation de suivre les leçons missionnaires et de se faire baptiser. Sa femme et lui ont assisté au service de baptême. Nous pouvons tous participer à l'œuvre missionnaire. C'est l'œuvre du Seigneur et il nous aidera à l'accomplir. Son évangile doit aller dans tous les pays et nous pouvons être des instruments entre ses mains pour être une bénédiction pour les gens en leur faisant connaître la vérité. Ce faisant, nous serons grandement bénis. Nous sommes les enfants d'un Père céleste aimant. Il a envoyé son Fils pour ouvrir la voie, afin que nous puissions vivre avec lui éternellement. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ.
Je me réjouis avec vous d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Partout dans le monde, dans chaque continent, dans des grandes villes et des petits villages, nous sommes une grande famille de croyants. Ensemble, nous avons commencé notre marche vers la vie éternelle. C'est le plus grand des voyages. Nous allons de l'avant, prenant sur nous le nom du Christ, décidés à le servir jusqu'à la fin. Nous avons de nombreuses occasions, comme celle d'aujourd'hui, pleines de puissance et de confirmation spirituelle, mais il y a aussi des jours où nous nous sentons incompétents et mal préparés, où le doute et la confusion pénètrent notre esprit. Notre victoire en tant que disciples du Christ dépend en partie de ce que nous faisons quand nous viennent ces sentiments. Il y a près de 40 ans, en pensant à l'éventualité d'une mission, je me sentais incompétent et mal préparé. Je me souviens d'avoir fait cette prière, « Père Céleste, comment puis-je faire une mission alors que je sais si peu de choses ?» Je croyais à l'Église, mais ma connaissance spirituelle me semblait très limitée. En priant, j'ai eu le sentiment suivant. Tu ne sais pas tout, mais tu en sais assez. Ainsi, rassuré, j'ai eu le courage de faire le pas suivant et de partir en mission. Notre voyage spirituel est un processus qui dure toute la vie. Notre conversion se produit étape par étape, ligne sur ligne. Nous commençons par édifier un fondement de foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous incluons l'engagement de prière continuellement, le désir d'être obéissant et le témoignage constant du Livre de Mormon. Puis, nous restons constants et patients dans notre progression pendant toute la condition mortelle. Parfois, le Seigneur répondra, « Tu ne sais pas tout, mais tu en sais assez. Assez pour respecter les commandements et pour faire le bien. » Souvenez-vous des paroles de Néphi. Je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. Je suis allé un jour dans une mission du sud de l'Europe. Je suis arrivé le jour où un nouveau missionnaire se préparait à rentrer chez lui à sa demande insistante. Nous nous sommes assis tous les deux chez le président de mission. Le missionnaire m'a raconté son enfance difficile, ses déménagements de famille en famille. Il a parlé sincèrement de son incapacité de s'adapter à une nouvelle culture. Puis il a ajouté, « Frère Anderson, je ne sais même pas si Dieu m'aime. » Quand il a dit cela, un sentiment très fort m'est venu à l'esprit. Il sait que je l'aime. Il le sait. Je l'ai laissé continuer quelques minutes, puis je lui ai dit, « Frère, je comprends tout ce que vous avez dit, mais je dois vous corriger sur une chose. Vous savez que Dieu vous aime. Vous le savez. » Quand je lui ai dit ces paroles, l'esprit qui m'avait parlé, lui a parlé aussi. Il a baissé la tête et il s'est mis à pleurer. Il m'a demandé de l'excuser. Il a dit, « Vous avez raison, frère Anderson. Je sais que Dieu m'aime. Je le sais. » Il ne savait pas tout, mais il en savait assez. Cette connaissance spirituelle inestimable a été suffisante pour que son doute fasse place à la foi. Il a trouvé la force de rester en mission. Frères et sœurs, nous avons tous des moments de puissance spirituelle, des moments d'inspiration et des révélations. Nous devons les ancrer profondément au tréfonds de notre âme. Jésus a dit, « Gardez cela dans votre cœur, afin de faire les choses que je vous enseignerai. » Il y a quelques années, la petite fille d'un ami est morte dans un accident tragique. Des espoirs et des rêves s'effondraient. Mon ami a commencé à remettre en question ce qu'on lui avait appris et ce qu'il avait enseigné en mission. La mère de mon ami m'a écrit pour me demander de lui donner une bénédiction. En posant les mains sur sa tête, le sentiment que j'ai eu était « La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. » Il avait avoir besoin de choisir la foi. Mon ami ne savait pas tout, mais il en savait assez. Il a choisi la voie de la foi et de l'obéissance. Il s'est mis à genoux. Il a retrouvé son équilibre spirituel. Plusieurs années ont passé depuis. Il y a peu de temps, j'ai reçu une lettre de son fils qui est actuellement en mission. Elle était empreinte de conviction et de témoignage. En la lisant, j'ai vu comment le choix de la foi, fait par un père à un moment très difficile, avait profondément béni la génération suivante. Les épreuves, les difficultés, les questions, les doutes font partie de la condition mortelle. En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons des réservoirs spirituels de lumière et de vérité. La peur et la foi ne peuvent pas coexister. Jésus a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Nous commençons à voir que celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante, jusqu'au jour parfait. Nos questions sont résolues, nos doutes disparaissent ou nous tracassent moins. Nous apprenons ce que nous savions déjà. Hadley Pay a maintenant 7 ans. Elle est née avec un grave problème d'audition qui a nécessité des interventions chirurgicales pour qu'elle entende un peu. Un jour, quand Hadley avait 4 ans, elle était avec sa mère dans une file d'attente à la caisse d'un magasin d'alimentation. Regardant derrière elle, elle a vu un petit garçon dans un fauteuil roulant. Elle a remarqué qu'il n'avait pas de jambes. Parlant fort, elle a demandé à sa mère pourquoi le petit garçon n'avait pas de jambes. Sa mère lui a expliqué que notre Père Céleste fait tous ses enfants différents. « Ah bon ?» a répondu la fillette. Puis, tout à coup, elle s'est tournée vers le petit garçon et lui a dit « Est-ce que tu savais que quand notre Père Céleste m'a fait, mes oreilles ne marchaient pas ?»« C'est ce qui me rend spécial. Il t'a fait sans jambes. Et c'est ce qui te rend spécial. Quand Jésus viendra, je pourrai entendre et tu auras tes jambes. Jésus va tout arranger. » Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hadley en savait assez. Jésus est le Christ. Il est ressuscité. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Tout sera arrangé quand il reviendra. Cette Église est sa sainte œuvre. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, sa patrie a été rétablie sur la terre et son prophète aujourd'hui est Thomas S. Monson. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Vrais disciples du Seigneur ». Après ce chant, nous entendrons Marcos Aducatis des 70. Il sera suivi de Daline Hawkes du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite « Fais ton devoir ». Voici la lumière.
Vous
assistez à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Good morning, dear brothers and sisters.
Bonjour, mes chers frères et sœurs. C'est une grande joie et un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Je prie pour que Dieu guide mes paroles et que son esprit soit avec nous, afin que celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et que tous deux soient édifiés et se réjouissent ensemble. Je considère que le 2 juin 1940 est une date très importante dans l'histoire de ma famille. C'est le jour où mon père s'est fait baptiser dans l'église. Jack MacDonald, l'un des missionnaires qui l'a baptisé, a écrit les mots suivants à son père pour décrire ce jour-là. Dimanche dernier, il faisait particulièrement beau. Nous nous sommes rendus dans un endroit retiré au bord de la rivière, à la campagne, et Frère Jones et moi, frère MacDonald, avons fait notre premier baptême. Anthony Aidoukaitis est entré dans l'eau glacée et est devenu membre de l'Église. Tout était parfait. Le ciel était si bleu, le paysage si paisible et vert, et tout était si agréable que personne d'entre nous n'a pu s'empêcher de ressentir la présence d'une grande influence. Tandis que nous rentrions avec notre nouveau membre, celui-ci a dit qu'il ne savait pas comment expliquer à quel point cette journée avait été merveilleuse pour lui, à quel point il avait le sentiment d'être un nouvel homme. C'était notre premier baptême, mais le mérite ne revient ni à moi ni à personne d'autre. C'est lui qui s'est converti. Cet événement a changé l'histoire de ma vie. Je ne sais pas si mon père pouvait prévoir la sagesse de son choix, mais je l'aime pour ce qu'il a fait ce jour-là. Il est décédé depuis plus de 30 ans, mais je continuerai de l'honorer, de bénir son nom pour toujours. Ses parents étaient lituaniens, mais il est né en Écosse. Il a émigré au Brésil quand il était encore jeune. Sa connaissance de l'anglais a facilité sa conversion, puisqu'il a pu lire le Livre de Mormon en anglais, à une époque où il n'y avait pas encore de traduction fiable en portugais. À cause de cette barrière de la langue, ma mère ne s'est jointe à l'Église que quelques années plus tard. Mais lorsqu'elle l'a fait, elle est devenue un grand exemple de dévouement aux autres et d'amour de Dieu dans notre famille. Elle est ici aujourd'hui. Elle a maintenant 92 ans. Cela me remplit de joie de dire que je l'aime pour sa grande fidélité. Je l'honorerai et je bénirai son nom pour toujours également. J'admire le courage dont mon père a fait preuve en se faisant baptiser dans l'Église, malgré la situation dans laquelle il se trouvait. Cela n'a pas été facile pour lui. Sa femme ne s'est pas fait baptiser avec lui. L'alcool et le tabac étaient de fortes tentations pour lui. Il était pauvre. Sa mère était contre sa décision de se joindre à l'Église et lui a dit que s'il se faisait baptiser, elle ne le considérerait plus comme son fils. Avec moins de 300 membres, l'Église n'avait au Brésil aucun bâtiment. J'admire véritablement la détermination et le courage de mon père. Comment a-t-il pu prendre une telle décision malgré des circonstances si défavorables? La réponse est simple. C'était parce que mon père a lu le Livre de Mormon. Lorsqu'il l'a lu, il a reconnu la véracité du message du rétablissement. Le Livre de Mormon est une preuve que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie. Prêcher mon évangile enseigne que le Livre de Mormon associé à l'Esprit est le moyen de conversion le plus puissant. Le président Hinckley a dit, les personnes qui ont lu le Livre de Mormon dans un esprit de prière, qu'elles soient riches ou pauvres, érudites ou non, se sont élevées grâce à sa puissance. Je vous promets sans aucune réserve que vous serez touchés par l'Esprit du Seigneur si vous lisez le Livre de Mormon dans un esprit de prière, quel que soit le nombre de fois que vous l'ayez lu précédemment. Vous aurez une résolution renforcée de marcher dans l'obéissance à ses commandements et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu. Fin de citation. Ces promesses se sont réalisées pour mon père et pour ma famille. Comme on nous l'a enseigné, nous lisons tous les jours les Écritures en famille. Cela fait de nombreuses années que nous le faisons. Nous avons lu le Livre de Mormon plusieurs fois ensemble dans notre foyer et nous continuerons de le faire. Comme promis, l'Esprit du Seigneur est entré dans notre cœur, celui de notre famille, et nous avons ressenti une résolution renforcée de marcher dans l'obéissance à ses commandements et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu. Lorsque vous savez que le Livre de Mormon est vrai, vous savez que Joseph Smith a été appelé par Dieu pour établir l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Vous savez que Joseph Smith a vu le Père et le Fils. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule foi et qu'un seul baptême valable. Vous savez qu'un prophète de Dieu vit sur la terre aujourd'hui et qu'il a toutes les clés de la prêtrise et le droit de les utiliser comme Pierre dans les temps anciens. Vous savez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul nom par lequel on puisse recevoir le salut. Vous savez que Dieu le Père vit et qu'il nous aime. Vous savez que le plan du salut est parfait et vous avez le désir de recevoir les ordonnances, de respecter les commandements et de persévérer jusqu'à la fin. Je suis triste quand quelqu'un qui a reçu le Livre de Mormon et à qui on a expliqué cela refuse de le lire. Je suis triste que certaines personnes se laissent influencer par d'autres, refusant d'étudier ce livre, le considérant comme étant sans valeur et ne participent jamais au banquet spirituel qu'il propose. Cela me paraît incompréhensible. C'est comme si un fils ou une fille, séparé d'un père aimant, refusait de lire une lettre de lui et n'ouvrait même pas l'enveloppe. Les personnes qui font ce choix ressemblent aux enfants gâtés qui refusent ne serait-ce que de goûter le repas que leur a tendrement préparé leur mère. Dieu révèle sa vérité lorsque les gens suivent l'exhortation de Moroni, qui se trouve dans Moroni, chapitre 10, versets 3 à 5, dans le Livre de Mormon. Prêcher mon évangile résume ses instructions comme suit. Lire le Livre de Mormon et méditer sur son message concernant le Christ. Deuxièmement, prier Dieu avec foi en Jésus-Christ pour recevoir le témoignage que le Livre de Mormon est vrai et que Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Trois, prier sincèrement avec une intention réelle, ce qui signifie avoir l'intention d'agir en fonction de la réponse que l'on reçoit de Dieu. Aux personnes qui disent que nous ne pouvons pas savoir cela, je témoigne que nous le pouvons si nous sommes assez humbles pour faire ce que Dieu nous a demandé par l'intermédiaire de ses prophètes sur la terre. Croire autrement serait accepter l'idée absurde que Dieu ne sait pas où se trouve la vérité ou qu'il n'a pas le pouvoir de nous la montrer. Le fait que quelqu'un n'a pas mis la promesse de ce livre à l'épreuve ne signifie pas que d'autres ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce que j'aime et que j'honore mon Père? Parce que mon Père a lu le Livre de Mormon et a mis la promesse qu'il contient à l'épreuve. Pourquoi est-ce que j'aime et que j'honore mon Père? Parce qu'il n'a pas reculé devant la réponse qu'il a reçue, malgré les grandes difficultés qu'il rencontrait. Pourquoi est-ce que j'aime et que j'honore mon Père? Parce qu'il a été une bénédiction pour moi, avant même ma naissance, en ayant le courage de faire ce que Dieu attendait de lui. J'invite tous ceux qui m'entendent aujourd'hui à lire le Livre de Mormon et à appliquer la promesse qu'il contient. Ceux qui le feront sauront que ce livre est vrai. Je témoigne que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. Cette connaissance me permet de savoir que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Je sais qu'il n'a pas écrit le livre de Mormon, mais qu'il a traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Je sais que Thomas S. Monson est un prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui, le seul homme sur terre à détenir toutes les clés de la prêtrise et le droit de les utiliser. Je sais que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il vit et qu'il est à la tête de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous vivons dans les temps difficiles prophétisés par l'apôtre Paul. Les personnes qui essayent de marcher sur le chemin étroit et resserré voient des détours alléchants partout. Nous pouvons être troublés, rabaissés, abattus ou déprimés. Comment pouvons-nous avoir l'Esprit du Seigneur pour guider nos choix et nous garder sur le chemin? Dans la révélation moderne, le Seigneur a donné la réponse dans le commandement suivant. « Et, afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. Car en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. » C'est un commandement donné avec une promesse. En participant toutes les semaines de la bonne façon à l'ordonnance de la Sainte Cène, nous remplissons les conditions requises pour que se réalise la promesse que nous aurons toujours son Esprit avec nous. Cet Esprit est le fondement de notre témoignage. Il témoigne du Père et du Fils. Il nous rappelle toutes choses et nous conduit vers la vérité. C'est la boussole qui nous guide le long du chemin. Ce don du Saint-Esprit, Woodruff l'enseignait, est le plus grand don qui puisse être accordé à l'homme. L'ordonnance de la Sainte Cène fait de la réunion de Sainte Cène la réunion la plus sacrée et la plus importante de l'Église. C'est la seule réunion du sabbat à laquelle toute la famille peut assister ensemble. Son contenu, en plus de la Sainte Cène, doit toujours être planifié et présenté de manière à attirer notre attention sur l'expiation et les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mes premiers souvenirs des réunions de Sainte Cène se situent dans la petite ville d'Utah, où j'ai été ordonné diacre et où j'ai distribué la Sainte Cène. Comparé à ces souvenirs, les réunions de Sainte Cène auxquelles j'assiste maintenant, dans beaucoup de paroisses différentes, se sont grandement améliorées. En général, la Sainte Cène est bénie, distribuée et reçue par les membres dans une atmosphère calme et révérencieuse. La direction de la réunion, y compris les affaires nécessaires, est bref, empreinte de dignité, et les discours sont spirituels dans leur contenu et leur forme. La musique, comme les prières, conviennent à l'occasion. Cette norme représente une grande amélioration depuis le temps de ma jeunesse. Il y a parfois des exceptions. J'ai le sentiment que certains de la génération montante, et même certains adultes, n'ont pas encore compris l'importance de cette réunion et du recueillement personnel lors du culte. Les choses que je me sens poussé à enseigner aujourd'hui s'adressent aux personnes qui ne comprennent et n'appliquent pas encore ces principes importants et qui ne bénéficient pas encore de la bénédiction spirituelle promise de toujours avoir son esprit avec elles pour les guider. Je vais commencer par la façon dont les membres de l'Église doivent se préparer pour participer à l'ordonnance de la Sainte Cène. Il y a 5 ans, lors d'une réunion de formation mondiale des dirigeants, Russell M. Nelson, du Collège des 12 apôtres, a enseigné aux dirigeants de la prêtrise de l'Église comment planifier et diriger les réunions de Sainte Cène. Il a dit, « Nous commémorons son expiation d'une manière très personnelle. Nous venons à notre réunion de Sainte Cène, le cœur brisé et l'esprit contrit. C'est le point culminant de notre observance du jour du sabbat. Nous sommes assis bien avant le début de la réunion. Pendant ce moment de quiétude, le prélude musical ne doit pas être joué trop fort. Ce n'est pas le moment pour les conversations ou la transmission de messages. Enseignez à tous à respecter un moment de méditation et de prière pour vous préparer spirituellement pour la Sainte Cène. Fin de citation. Lorsqu'il est apparu aux Néphites après sa résurrection, le Sauveur leur a enseigné qu'ils devaient mettre fin à la pratique des sacrifices par effusion de sang. À la place, il leur a commandé « Vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit ». Ce commandement, réitéré dans la révélation moderne qui nous demande de prendre la Sainte Cène chaque semaine, nous dit comment nous devons nous préparer. Comme Frère Nelson l'enseignait, chaque membre a la responsabilité de l'enrichissement spirituel que peut procurer une réunion de Sainte Cène. Fin de citation. Dans ses écrits sur la doctrine du salut, Joseph Hilnick Smith enseigne que nous prenons la Sainte Cène pour commémorer la mort et les souffrances du Sauveur pour la rédemption du monde. Cette ordonnance a été instituée pour que nous renouvelions notre alliance de le servir, de lui obéir et de toujours nous souvenir de lui. Le président Smith ajoute, « Nous ne pouvons pas conserver l'Esprit du Seigneur si nous ne nous conformons pas d'une manière suivie à ce commandement. » Fin de citation. Notre tenue vestimentaire est un indicateur important de notre état d'esprit et de notre préparation pour toute activité à laquelle nous participons. Si nous allons nager, faire une randonnée ou jouer sur la plage, nos vêtements, y compris nos chaussures, l'indiquent. Ce devait être aussi vrai de la façon dont nous habillons pour participer à l'ordonnance de la Sainte Cène. C'est comme pour aller au temple. Notre tenue indique notre degré de compréhension de l'ordonnance à laquelle nous allons participer et le respect que nous lui accordons. Pendant la réunion de Sainte Cène, et en particulier pendant la distribution de la Sainte Cène, nous devons nous concentrer sur le culte et ne pas avoir d'autres activités, surtout si cela peut gêner le culte d'autrui. Même une personne qui s'endort discrètement ne dérange pas les autres. La réunion de Sainte Cène n'est pas un moment pour lire des livres ou des magazines. Les jeunes, ce n'est pas un moment pour chuchoter dans votre portable ou pour envoyer des textos à des personnes dans d'autres lieux. Lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous faisons l'alliance sacrée que nous nous souviendrons toujours du Sauveur. Qu'il est triste de voir des personnes qui enfreignent manifestement cette alliance pendant la réunion même où elles la contractent. La musique de la réunion de Sainte Cène est une partie essentielle de notre culte. Les Écritures enseignent que le chant des justes est une prière pour le Seigneur. La première présidence a déclaré que c'est dans les cantiques que l'on trouve quelques-uns des plus grands sermons. Comme c'est merveilleux lorsque toutes les personnes présentes s'unissent pour chanter, particulièrement le cantique qui nous aide à nous préparer à prendre la Sainte Cène. Tous les morceaux de musique de la réunion de Sainte Cène doivent être soigneusement choisis en gardant toujours à l'esprit que cette musique est destinée au culte et non au spectacle. Joseph Hilnick Smith a enseigné, je cite, « C'est une occasion où l'on doit présenter l'Évangile, où nous devons être invités à faire preuve de foi et à réfléchir à la mission de notre Rédempteur et à passer du temps à examiner les principes sauveurs de l'Évangile et l'on ne doit pas y faire autre chose. L'amusement, le rire, la légèreté, tout cela est déplacé aux réunions de Sainte Cène des saints des derniers jours. Nous devons nous réunir dans l'esprit de la prière et de l'humilité avec de la dévotion dans le cœur. » Fin de citation. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous participons à la solennité qui devrait toujours accompagner l'ordonnance de la Sainte Cène et le culte de cette réunion, nous nous qualifions pour la compagnie et la révélation de l'Esprit. C'est de cette façon que nous obtenons des directives pour notre vie et la paix le long du chemin. Le Seigneur ressuscité a souligné l'importance de la Sainte Cène lorsqu'il s'est rendu sur le continent américain et a institué cette ordonnance parmi les néphites fidèles. Il a béni les emblèmes de la Sainte Cène, les a donnés à ses disciples et à la multitude avec le commandement. Et cela, vous le ferez toujours à ceux qui se repentent et sont baptisés en mon nom. Et vous le ferez en souvenir de mon sang que j'ai versé pour vous, afin que vous témoigniez au Père que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. Et si vous faites toujours ces choses, vous êtes bénis, car vous êtes bâtis sur mon roc. Mais quiconque parmi vous fera plus ou moins que cela n'est pas bâti sur mon roc, mais est bâti sur une fondation de sable. Et lorsque la pluie tombera, et que les torrents viendront, et que les vents souffleront et s'abattront sur lui, il tombera. La Sainte Cène est l'ordonnance qui remplace les sacrifices par effusion de sang et les holocaustes de la loi de Moïse. Et le Sauveur l'accompagne d'une promesse. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. Je m'adresse maintenant particulièrement aux détenteurs de la prêtrise qui officient la table de Sainte-Cène. Cette ordonnance doit toujours être accomplie avec respect et dignité. Les prêtres qui font les prières au nom de l'Assemblée doivent prononcer les paroles lentement et distinctement pour exprimer les conditions des alliances et des bénédictions promises. C'est un acte très sacré. Les instructeurs qui préparent les emblèmes de la Sainte Cène et les diacres qui les distribuent font également quelque chose de très sacré. J'aime l'histoire du président Monson qui a raconté qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il était diacre, l'évêque lui a demandé de porter la Sainte Cène à un frère alité qui désirait vivement cette bénédiction. Il a expliqué, « Sa gratitude m'a bouleversé. L'Esprit du Seigneur m'a envahi. Je me suis senti en un lieu saint. » Fin de citation. Toutes les personnes qui officient à cette ordonnance sacrée sont en un lieu saint. Les jeunes gens qui officient à l'ordonnance de la Sainte Cène doivent être dignes. Le Seigneur a dit, « Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. » La mise en garde des Écritures concernant ceux qui prennent la Sainte Cène indignement s'applique aussi, bien sûr, aux personnes qui officient à cette ordonnance. Dans le cadre d'une action disciplinaire, l'évêque peut temporairement retirer le droit de prendre la Sainte Cène aux membres de l'Église qui ont commis des péchés graves. La même autorité peut bien sûr être utilisée pour retirer le droit d'officier à cette ordonnance sacrée. Ce que j'ai dit précédemment sur l'importance pour les personnes qui reçoivent la Sainte Cène d'avoir une tenue correcte s'applique évidemment d'autant plus aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron qui officient dans l'une des parties de cette ordonnance sacrée. Ils doivent tous avoir une présentation soignée et une tenue correcte. Rien dans leur aspect ou dans leurs actes ne doit attirer indûment l'attention sur eux ou empêcher les personnes présentes de se concentrer entièrement sur le culte et le renouvellement des alliances qui constituent le but de ce service sacré. Jeffrey R. Holland a donné un enseignement précieux sur ce sujet lors d'une conférence générale il y a 13 ans. Comme la plupart de nos diacres actuels n'étaient même pas nés, lorsque ces paroles ont été prononcées ici pour la dernière fois, je les répète pour eux et pour leurs parents et dirigeants. Je cite, « Je recommande que partout où c'est possible, les diacres, les instructeurs et les prêtres chargés de la Sainte Cène portent une chemise blanche. Pour les ordonnances sacrées de l'Église, nous portons souvent des vêtements cérémoniels, et la chemise blanche pourrait être le rappel discret des vêtements blancs que vous avez portés dans les fonts baptismaux et une préfiguration de la chemise blanche que vous porterez bientôt pour aller au temple et pendant votre mission. Fin de citation. Pour finir, on bénit et distribue la Sainte Cène uniquement lorsque celui qui détient les clés de cette ordonnance de la prêtrise l'autorise. C'est la raison pour laquelle on ne distribue généralement pas la Sainte Cène au foyer ou lors des réunions de famille, même lorsqu'il y a assez de détenteurs de la prêtrise pour le faire. Les personnes qui officient à la table de Sainte Cène, qui préparent ou distribuent la Sainte Cène à l'Assemblée, doivent être désignées par quelqu'un qui détient ou exerce les clés de cette ordonnance. Je parle de l'épiscopat ou de la présidence du collège des instructeurs ou des diacres. Le Seigneur a déclaré, « Ma maison est une maison d'ordre. » Comment pouvons-nous avoir l'Esprit du Seigneur pour guider nos choix afin de toujours nous préserver des souillures du monde et rester sur le bon chemin dans la condition mortelle? Nous devons être dignes du pouvoir purificateur de l'expiation de Jésus-Christ. Nous le faisons en respectant son commandement d'aller à lui, le cœur brisé et l'esprit contrit, et lors de cette merveilleuse réunion hebdomadaire, en prenant les emblèmes de la Sainte Cène et en contractant les alliances qui nous permettent d'être dignes de la promesse précieuse de toujours avoir son esprit avec nous. Je prie humblement pour que nous puissions toujours le faire, et je fais cette prière au nom de Jésus-Christ, dont l'expiation rend tout possible. Oui, Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frères. Et merci aux sœurs Allred de vos paroles inspirantes. Nous remercions également le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Dieter Urdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après le cantique, nous allons chanter maintenant. Après le discours de Frère Urdorf, le chœur chantera « Oh, j'ai besoin de toi ». Ensuite, Craig Carden, les 70, fera la prière de clôture. Et la conférence sera interrompue jusqu'à 14 heures cet après-midi. Le chant maintenant par le chœur.
My dear brothers and sisters and friends,
mes chers frères et sœurs et amis, quel jour glorieux pour nous de témoigner l'annonce de 5 nouveaux temps par notre prophète bien-aimé. Quel jour merveilleux pour nous tous. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mon père a été incorporé dans l'armée allemande et envoyé sur le front ouest, laissant ma mère s'occuper seule de notre famille. Je n'avais que 3 ans, mais je me souviens encore de cette période de peur et de faim. Nous vivions en Tchécoslovaquie. Chaque jour, la guerre s'approchait et le danger grandissait. Finalement, durant l'hiver rigoureux de 1944, ma mère a décidé de fuir en Allemagne, où vivaient ses parents. Elle nous a emmitouflés et a réussi à nous faire prendre l'un des derniers trains de réfugiés partant vers l'ouest. Il était dangereux de voyager durant cette période. Partout où nous allions, le bruit des explosions, les visages tourmentés et la faim toujours présente nous rappelaient que nous étions dans une zone de guerre. En chemin, le train s'arrêtait de temps en temps pour que nous puissions nous ravitailler. Un soir, à l'un de ces arrêts, ma mère s'est hâtée de descendre du train pour chercher de la nourriture pour ses 4 enfants. Quand elle est revenue, à son grand désespoir, le train et ses enfants étaient partis. Terrassée par la peur, elle s'est mise à prier désespérément. Elle a cherché frénétiquement dans la gare, la grande gare sombre, traversant en hâte les nombreuses voies, espérant malgré tout que le train n'était pas encore parti. Je ne saurais peut-être jamais tout ce qui s'est passé dans le cœur et dans l'esprit de ma mère durant cette sombre soirée où elle cherchait ses enfants perdus dans une gare sinistre. Je n'ai aucun doute qu'elle était terrifiée. Je suis certain qu'elle a pensé que si elle ne trouvait pas ce train, elle risquait de ne jamais revoir ses enfants. Mais je sais avec certitude que sa foi a vaincu sa peur et que son espérance a vaincu son désespoir. Elle n'était pas le genre de femme à s'asseoir et à se lamenter. Elle a agi, elle a mis sa foi et son espérance en action. Elle a donc couru de voie en voie et de train en train jusqu'à ce qu'elle retrouve finalement notre train. Il avait été déplacé dans une zone éloignée de la gare. Là, enfin, elle a retrouvé ses enfants. J'ai souvent pensé à cette soirée et à ce que ma mère a dû endurer. Si je pouvais remonter le temps et m'asseoir près d'elle, je lui demanderais comment elle a fait pour continuer malgré sa peur. Je lui demanderais de me parler de foi et d'espérance et de me dire comment elle a vaincu le désespoir. Ce n'est pas possible, mais aujourd'hui, je peux peut-être m'asseoir près de vous et près de ceux qui sont décourageux, soucieux ou seuls. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir infini de l'espérance. L'espérance est l'un des 3 pieds du trépied de l'espérance, la foi et la charité. À L3, elle stabilise notre vie, même si nous nous trouvons sur un sol rugueux ou inégal. Les Écritures sont claires et sûres à propos de l'importance de l'espérance. L'apôtre Paul a enseigné que les Écritures ont été données afin que nous possédions l'espérance. L'espérance a le pouvoir de remplir notre vie de bonheur. Son absence, quand ce désir de notre cœur est différé, peut rendre notre cœur malade. L'espérance est un don de l'esprit. C'est l'espérance que par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, nous ressusciterons et auront la vie éternelle, et cela grâce à notre foi au Sauveur. Ce genre d'espérance est à la fois un principe de promesse ainsi qu'un commandement. Et comme pour tous les commandements, nous avons la responsabilité de l'appliquer dans notre vie et de surmonter la tentation de perdre espoir. L'espérance en la réalité du plan du bonheur miséricordieux de notre Père Céleste mène à la paix, à la miséricorde, à la réjouissance et à la joie. L'espoir de salut est comme un casque protecteur. C'est le fondement de notre foi et l'ancre de notre âme. Moroni, dans sa solitude, même après avoir été témoin de la destruction complète de son peuple, vivait dans l'espérance. Au crépuscule de la nation néphite, il a écrit que sans elle, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage dans le royaume de Dieu. Mais alors, pourquoi y a-t-il du désespoir? Les Écritures disent qu'il doit y avoir une opposition en toutes choses. Et il en est de même pour la foi, l'espérance et la charité. Le doute, le désespoir et l'indifférence envers notre prochain nous mènent à la tentation qui peut nous priver des bénédictions précieuses. L'adversaire utilise le désespoir pour lier des cœurs et des esprits dans une obscurité suffocante. Le désespoir nous enlève tout ce qui est plein d'entrain et joyeux et laisse derrière lui les décombres de ce que la vie devait être. Le désespoir tue l'ambition, provoque la maladie, pollue l'âme et insensibilise le cœur. Le désespoir peut ressembler à un escalier qui ne mène éternellement que vers le bas. L'espérance, en revanche, est comme le rayon d'un soleil levant au-dessus de l'horizon de notre situation actuelle. Il perce les ténèbres par une aube brillante. Il nous encourage et nous inspire à placer notre confiance dans l'amour attentionné d'un Père céleste éternel qui a préparé le chemin pour les personnes qui recherchent la vérité éternelle dans un monde de relativisme, de confusion et de peur. Qu'est-ce donc que l'espérance? La complexité du langage offre plusieurs variantes et intensités du mot « espérance ». Par exemple, un jeune enfant peut espérer un téléphone jouet, un adolescent peut espérer l'appel téléphonique d'un ami, et un adulte peut simplement espérer que le téléphone va enfin s'arrêter de sonner. Je vais parler aujourd'hui de l'espérance qui dépasse ce qui a peu d'intérêt et qui se concentre sur l'espérance d'Israël, la grande espérance du genre humain, notre Rédempteur, Jésus-Christ. L'espérance n'est pas la connaissance, mais plutôt la confiance durable, que le Seigneur tiendra les promesses qu'il nous a faites. C'est la confiance que si nous vivons en accord avec les lois de Dieu et les paroles de ses prophètes maintenant, nous recevrons les bénédictions désirées à l'avenir. C'est croire que nos prières seront exaucées et l'attendre. C'est faire preuve de confiance, d'optimisme, d'enthousiasme et de persévérance patiente. Dans la langue de l'Évangile, cette espérance est sûre, inébranlable et active. Les prophètes d'autrefois parlent de ferme espérance et d'espérance vivante. C'est une espérance qui nous fait glorifier Dieu par de bonnes œuvres. L'espérance s'accompagne de joie et de bonheur. Avec l'espérance, nous pouvons avoir de la patience et supporter les afflictions dans la ferme espérance que nous nous reposerons un jour de toutes nos afflictions. Il y a des choses que nous espérons et des choses en lesquelles nous espérons. Les choses que nous espérons sont souvent des événements futurs. Si seulement nous pouvions nous projeter au-delà de l'horizon de la condition mortelle, dans ce qui nous attend au-delà de cette vie, nous comprendrions clairement qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons attendre joyeusement. Est-il possible d'imaginer un avenir plus glorieux que celui de notre Père Céleste a préparé pour nous? Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur, car nous vivrons éternellement sans jamais connaître à nouveau la mort. Grâce à son expiation infinie, nous pouvons être purifiés du péché et nous tenir purs et saints à la barre du jugement. Le Sauveur est véritablement l'auteur de notre salut. Les gens qui vont au Christ, se repentent de leurs péchés et vivent avec foi, demeureront éternellement en paix. Pensez à la valeur de ce don éternel. Entourés des gens que nous aimons, nous connaîtrons la signification de la joie suprême en progressant en connaissance et en bonheur. le Sauveur, est l'auteur du salut. Aussi sombre que semble le chapitre de notre vie aujourd'hui, grâce à la vie et au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons espérer et être assurés que la fin du livre de notre vie surpassera nos plus grandes attentes. Et nous pouvons en être sûrs. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses en lesquelles nous espérons nous soutiennent dans notre marche quotidienne. Elles nous soutiennent dans les épreuves, les tentations et le chagrin. Tout le monde a connu le découragement et les difficultés. En fait, il y a des moments où les ténèbres peuvent sembler insupportables. C'est à ces moments-là que les principes divins de l'Évangile rétabli, dans lesquels nous espérons, peuvent nous soutenir et nous porter jusqu'à ce que nous marchions à nouveau dans la lumière. Nous espérons en Jésus le Christ, en la bonté de Dieu, aux manifestations du Saint-Esprit, en la connaissance que les prières sont entendues et reçoivent des réponses. Parce que Dieu a été fidèle et a tenu ses promesses par le passé, nous pouvons espérer avec confiance qu'il tiendra maintenant et à l'avenir les promesses qu'il nous a faites. Dans les moments de détresse, nous pouvons nous tenir fermement à l'espérance que tout concourra à notre bien si nous suivons les recommandations des prophètes de Dieu. Ce type d'espérance en Dieu, en sa bonté et en son pouvoir, nous redonne du courage dans les difficultés et donne de la force aux gens qui se sentent menacés par des murailles de peur, de doute et de désespoir. L'espérance mène aux bonnes œuvres. Nous apprenons à acquérir l'espérance comme nous apprenons à marcher, pas à pas. Si nous étudions les Écritures, parlons avec notre Père Céleste, nous engageons à respecter la parole de sagesse et payons complètement la dîme, nous obtenons l'espérance. En vivant l'Évangile plus parfaitement, nous acquérons plus de capacité d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il peut y avoir des moments où nous devons prendre la décision courageuse d'espérer quand tout autour de nous est contraire à cette espérance. Comme notre père Abraham, le patriarche, nous allons espérer contre toute espérance. Ou comme l'a dit un écrivain, au milieu de l'hiver, nous trouverons en nous un invincible été. La foi, l'espérance et la charité se complètent, et quand l'une s'accroît, les autres s'accroissent aussi. L'espérance naît de la foi, car sans la foi, il n'y a pas d'espérance. De la même manière, la foi naît de l'espérance, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est indispensable à la foi et à la charité. Quand la désobéissance, la déception et la temporisation érodent la foi, l'espérance est là pour la soutenir. Quand l'énervement et l'impatience mettent la charité en difficulté, l'espérance renforce nos résolutions et nous pousse à prendre soin de notre prochain, même sans attendre de récompense. Plus notre espérance est grande, plus notre foi est forte. Plus notre espérance est forte, plus notre charité est pure. Les choses que nous espérons nous mènent à la foi, tandis que les choses en lesquelles nous espérons nous mènent à la charité. Si nous avons la foi, nous devons avoir l'espérance. Si nous avons l'espérance, nous devons aussi avoir la charité. Ces trois qualités que sont la force, l'espérance et la charité, appliquées ensemble, enracinées dans la vérité et la lumière de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous font abonder en bonnes œuvres. L'espérance naît de l'expérience personnelle. Chaque fois qu'un espoir se concrétise, il engendre de la confiance et produit plus d'espérance. Je pense aux nombreuses fois dans la vie où j'ai appris par expérience le pouvoir de l'espérance. Je me souviens bien dans mon enfance de jours remplis des horreurs et du désespoir, d'une guerre mondiale, du manque de possibilités d'études, de graves problèmes de santé durant mon adolescence et de la vie difficile et décourageante de réfugiés. L'exemple de notre mère, même dans les pires moments, pour aller de l'avant et mettre la foi et l'espérance en action, sans se contenter de se faire du souci et d'avoir des souhaits, a soutenu notre famille et m'a donné la confiance que la situation d'alors céderait la place à des bénédictions à venir. Ces expériences m'ont appris que c'est l'Évangile de Jésus-Christ et l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours qui fortifie la foi, apporte une espérance brillante et mène les disciples de Jésus-Christ à la charité. L'espérance nous soutient dans le désespoir. Si seulement nous pouvions avoir un bref aperçu de ce que le Seigneur a en réserve pour nous, non seulement dans la vie prochaine, mais aussi dans celle-ci, notre espérance serait inébranlable et le désespoir ne triompherait jamais de nous. L'espérance enseigne qu'il y a des raisons de se réjouir, même quand tout semble sombre autour de nous. Avec Jérémie, je proclame « Béni soit l'homme dont l'Éternel est l'espérance ». Avec Joël, je témoigne que l'Éternel est l'espérance de son peuple et la force des enfants d'Israël. Avec Néphi, je déclare « Marchez résolument avec conscience dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin. Voici ainsi dit le Père. » Vous aurez la vie éternelle. C'est là l'espérance que nous devons chérir et acquérir. Une espérance aussi forte s'obtient dans et par notre Sauveur Jésus-Christ. Car quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le Seigneur nous a donné un message d'espoir rassurant. Ne crains pas, petit troupeau. Dieu attendra les bras ouverts pour recevoir ceux qui abandonnent leurs péchés et avancent avec foi, espérance et charité. Et à tous ceux qui souffrent, qui sont découragés, soucieux et seuls, je dis avec amour et un souci sincère, ne cédez jamais. Ne capitulez jamais. Ne laissez jamais le désespoir triompher de votre esprit. Embrassez l'espérance d'Israël et reposez-vous sur lui, car l'amour du Fils de Dieu perce toutes les ténèbres, adoucit tous les chagrins et réjouit tous les cœurs. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.
Heavenly Father,
Père céleste, nous te remercions de ton Fils divin, pour ton Église rétablie sur terre et pour cette occasion d'être assemblés, d'élever la voix et notre cœur vers toi en adoration parfaite. Nous te remercions pour ton royaume et pour son agrandissement. Nous te prions que le don et la puissance de la prêtrise bénissent la vie de tes enfants partout sur terre. Sois avec nous, aide-nous à être unis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la première session de la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.